dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Ce qui veut dire, il n'y a pas de route toute tracée, c'est à toi de la tracer en avançant. Cette phrase, tirée d'un poème d'Antonio Machado, illustre bien le parcours atypique d'Isabelle Lemoyne.
Née en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, sous le franquisme, petite enfance vécue dans un bidonville du côté de Barcelone, en compagnie des Gitans. Arrivée en France, intégration réussie grâce au militantisme des hussards noirs de la République, Isabelle Lemoyle, avéronaise de cœur, a continué sa route comme enseignante en France, puis en Amérique latine, pour la poursuivre de nos jours au Pérou, dans un bidonville de Trujillo.
Un itinéraire parfaitement défini par le texte de Jean Ferrat, « Nul ne guérit de son enfance ».
Dans cette émission de Dissonance, il sera question d'un parcours de vie exceptionnel, d'une enfance pauvre financièrement mais riche de rencontres et de découvertes, d'un élan donné par ses parents qui a permis à Isabelle de pédaler toute seule et d'avancer, mais aussi d'un investissement solidaire. Dans cette émission de Dissonance, nous allons évoquer le chemin d'Isabelle Lemoyle qui va nous conduire des bidonvilles de Barcelone à ceux de Trujillo au Pérou.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Saint-Afrique.
Isabelle Lemoyle, pour moi tu es une personne atypique et j'aimerais que les auditeurs de notre radio puissent te découvrir, t'entendre et puissent t'accompagner dans l'action que tu mènes de nos jours. Mais d'abord, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu t'appelles Isabelle Lemoyle ou est-ce que tu as un autre nom?
En réalité, je m'appelle Isabelle Barnés Carrillo et qu'on a ajouté traditionnellement pendant mon enfance sous le franquisme para servir a Dios y a usted, à savoir pour servir Dieu et pour vous servir. Mon père a eu une enfance très, très difficile, comme tous les Espagnols de l'époque. Hein. Il vivait du côté de Lorca, une terre extrêmement aride. On dit que Jésus est passé par là quand il faisait le tour du monde, du temps de son époque globe-trotteur, et qu'il aurait secoué sa cape en partant, il aurait dit « de Lorca ni el polvo », à savoir « de Lorca, je n'en veux même pas la poussière ». Ceci pour exprimer combien la difficulté de vivre dans ces terres-là. Donc ma grand-mère et tous ses enfants, ses quatre enfants, sont venus vivre à Barcelone en quête de travail. Mon grand-père, lui, préférait promener le fusil du propriétaire qui les employait du côté de Lorca. Et il est venu un peu plus tard. Donc ma grand-mère s'est bien débrouillée, les enfants ont travaillé là. Mon père a beaucoup travaillé dans les mines. Et après, il a fait un petit peu de tout. Il a été charbonnier, il a fait un tas de boulot. Et puis, il y a eu la guerre. Donc, il est parti volontario, dans le camp des républicains.
La guerre, donc, en Espagne.
La guerre de 39... pardon. Dime la fecha, que no me acuerdo.
18 de julio de 1936.
De 36 à 39, voilà, le 18 de julio. Donc, il est parti volontaire. Bon, il a subi, comme tout le monde, les horreurs de l'époque. Il a été fait prisonnier alors qu'il essayait de s'échapper avec son ami Pellegrin et rattrapé par un groupe de Marocains, renvoyé en camp de concentration, puis, bon, après libéré à la fin. Je ne sais pas à quel moment, parce que je n'ai pas les dates. Ils étaient déjà mariés avec ma mère. Et ma mère a eu l'occasion, elle nous racontait sa visite au camp de concentration pour amener du pain à mon père, du pain récolté dans la rue que les gens lui donnaient. et combien elle a été reçue très chaleureusement par les gardiens du camp, tellement chaleureusement qu'elle a bien dit qu'il pouvait mourir là, que jamais il ne reviendra à cet endroit. Parce que les tentatives de séduction avaient été plus que pressantes et que de voir autant de misère, elle ne supportait plus. Donc, quand mon père est parti, ça a été échappé, s'est échappé, puis rattrapé, puis enfin libéré. Et bien, après quelques années de mariage un peu difficile, parce qu'ils ont eu un enfant qui est décédé, et il y a eu la petite merveille que je suis. Voilà.
Et ta maman est de la même région que de ton
mon
papa.
Ma mère était de Murcia, Lorca, et elle avait été venue en 27. Elle était petite, elle avait 7-8 ans. Elle est venue vivre à Barcelone où ses parents ont trouvé du travail, quoi. Hein, donc, même parcours avec quelques années de différence, mais ils se sont rencontrés à Barcelone.
Alors, Barcelone, c'est en Catalogne. Oui. Murcia, Lorca, c'est en...
C'est plus vers le sud, hein,
voilà.
Vers l'Andalousie.
Est-ce que vous étiez considérés comme des immigrés?
Alors, nous avons été considérés tout le temps comme charnegos, à savoir que les Catalans n'ont jamais, du moins à l'époque, hein, je parle quand j'y étais, intégré les charnegos. Ils surnommaient ceux qui venaient du sud pas Iseva, c'est-à-dire pain et oignons, ce qui devait être leur menu quotidien, je suppose. Et la preuve que nous n'avons jamais été intégrés au monde des Catalans, je parle encore une fois de l'époque, des années 50-60, c'est que nous sommes partis... En 56, moi j'avais 9 ans, je ne parle pas le catalan. Je suis arrivée en France en 56 avec mes parents. Au bout de 6-7 mois, je parlais le français. Ce qui est une preuve de cet accueil qu'on a eu, malgré les difficultés, où on nous a acceptés, souvent aidés. Ce qui n'a pas été le cas avec les Catalans, je peux dire. Donc, je suis née à Barcelone, mais de culture et d'appartenance murciana. Pas question de me dire que je suis catalane, parce que là, je sors mon pistolet. Ça, pas question. Ouais, non.
Et à Barcelone, donc, tu as vécu...
Alors, à Barcelone, voilà, le parcours. Je suis née donc dans la banlieue de Barcelone, Santa Coloma de Gramenet, exactement. Mon père a fait un petit peu tous les métiers, puis il a fini par travailler dans une fonderie. Il a eu la bonne idée avec mon oncle Thomas de faire quelques pas discrets dans le syndicalisme. Ils étaient tellement discrets qu'au bout de quelques mois, on les a mis à la porte. Donc, ça a été le début d'une descente aux enfers un petit peu, parce qu'ils avaient un petit bout de terrain qu'ils ont dû vendre. Étant presque illettrés, on les a arnaqués sur les sommes qu'on devait donner. Ils n'ont eu que le premier versement. De ce terrain, de cette petite baraque. Donc mon père a été obligé de partir et de construire une chabola, hein, c'est-à-dire une petite baraque avec le toit en ouvalite. Hein. Et on est parti alors à l'extérieur, parce que c'était pas cher, à côté de Sabadell, qui est une zone industrielle, mais nous on était vraiment dans les champs. Et ça a été le premier qui a inauguré le bidonville, donc à ce titre je pense que on devrait me donner une reconnaissance là, hein,
tout à fait,
comme pionnière. Et donc, ma sœur était née entre-temps, ma mère regardait la petite chez ma tante, puisqu'on n'avait plus de maison. Et mon père a fait quatre avec des briques superposées, on a fait une cabane. Et je suis partie avec lui, n'étant pas scolarisée. Donc je suis partie avec mon papa vivre là-dessous. On n'avait ni eau, ni électricité, ni rien du tout. Il allait chercher l'eau dans une ferme, à 300 ou 400 mètres, avec un seau. Et je me souviens de m'être réveillée un matin, il n'y avait plus mon papa. Dans cette cabane, j'étais toute seule, j'ai hurlé, je rappelais, je ne le voyais pas, parce que la ferme était assez loin. Donc, et quand il est arrivé, j'étais en larmes, et il m'a dit, « Pero tonta, te creías que te iba a abandonar? Ok, pero lo seas tonta. »
Voilà. Tu croyais que j'allais t'abandonner.
Voilà, tu croyais que j'allais t'abandonner. Bon. Ouais. Alors après, les oncles sont venus et ils ont fait une maison en dur avec le toit, donc, comment c'est dit, en ouvalite, hein,
oui,
en tôle ondulée, là, je ne sais pas, voilà.
Oui, oui.
Et c'est là qu'on a vécu pendant 3 ans. Mais comme il y avait de l'espace, d'autres chabolas comme ça, d'autres petites maisons, si on peut appeler ça des baraques, se sont mises un petit peu partout, et en particulier sont arrivés les gitans. Les gitans qui n'avaient pas d'espace à eux nulle part. Donc comme là, c'était à personne pratiquement, ils se sont installés. Et ça a été une grande aventure pour moi parce que ça a été un monde extraordinaire. Non, on partageait beaucoup de choses, les morceaux de poules crevées, les poux, les bonnes rigolades, voilà. Le petit coin pour aller faire pipi et caca, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de toilette. Mmh. À tel point, on s'est tellement liés que mon père s'est mis en affaire avec un digita. Et il a fait un mur, un tabique, un mur entre notre logement. Et ils ont fait deux pièces, donc on avait les gitans mitoyens. Ça a duré presque 3 ans. Et puis mon père est parti parce que on ne sait pas s'il était fiché, s'il était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était devenu chiffonnier avec mon aide précieuse, parce qu'on allait faire les dépotoirs le matin de bonne heure. Mais très souvent, on était arrêté, moi j'étais enfant, par la guardia civile qui prétextait que le chien était descendu de la charrette. C'était une charrette et un cheval. Que la lumière de la lanterne, puisqu'en partie il faisait presque nuit, il y avait du vent, c'était. Alors il avait une amende tous les 2 ou 3 jours. Donc il se proposait, un de ces quatre, de tuer un des flics. Donc ma mère, à son corps défendant, l'a poussé à partir. Voilà. Et il est venu donc, chez sa tante, il avait une tante avec qui il avait perdu le contact, mais qu'il a retrouvé, à Albi. Après qu'on est parti dans la Corrèze faire de bûcheron.
Carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento, con mis ojos de dolor, de bohemio soñador, y aunque ya nunca sueño, con mis manos yo toqué tanta música de amor y fe, que partí los corazones. Con mi boca que bebió, que besó y que mordió, y que nunca calmó mi sed. Con mi carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento. Con mi pie que se curtió, con el sol y la caricia, ay que la vida ya ni me dio. Y con este corazón que se sufrió y sufrió, y nunca pudo quedarse. Y mi alma que no tiene ninguna oportunidad, ay de pisar. Carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento. Te amaré dulce cautiva, tú serás mi alma gemela, tus 20 años beberé.
Seré tu príncipe azul, soñador y adolescente, yo seré como tú quieras. Y haremos de cada día una eternidad de amor que viviremos ya hasta la muerte. Y haremos de cada día una eternidad de amor que viviremos.
Dissonance avec
Isabelle Barnes Carrillo,
sur Radio Centrafrique.
Est-ce qu'on peut rester encore un petit peu dans le bidonville,
alors,
Isabelle? Ce sont trois années dures, difficiles, trois
années... à la fois dures matériellement, parce qu'on attendait parfois que mon père arrive, le samedi arrive pour pouvoir payer la note de l'épicière, qui nous fiait, elle nous faisait confiance et nous donnait le minimum, mais on avait quand même, je n'ai pas souffert de la faim.
Tu avais des amis d'enfance.
Mais en même temps, une liberté totale, parce que les petits gitans et moi, et les autres, parce qu'il y en a eu d'autres après, nous n'avions. On était entièrement libres, du matin au soir, on pouvait profiter de tout, aller fourrer notre nez partout, au point que ma mère me disait la consigne franquise, tout franquise, ça veut dire tout hija, oír, ver y callar. Et que non,
tu dois écouter, tu dois regarder, mais surtout te taire.
Te taire. Et il fallait se taire également lorsque mon père écoutait la radio Pilineika dans la pièce.
Cette radio, c'était une radio...
disait-il communiste, disait-il. Ouais. Je ne sais pas, parce que j'étais petite et qui était interdite. Donc nous devions rester devant la porte, et si quelqu'un venait, on tapait au carreau, puisqu'on n'avait pas de volume, on tapait comme ça... Voilà, et donc ils mettaient ça dans le lit, parce qu'ils écoutaient sur le lit avec ma mère. Et on faisait vraiment, on avait un rôle très important. Mmh. Et après, il y a eu quand même la découverte de la vie, parce que ce bidonville, il y avait tout, il y avait des morts, il y avait des disputes, il y avait de l'amour, il y avait des mariages. Et on disait toujours, toi, tu fourres le nez partout, tu sais de quelle couleur est la culotte de la mariée, mais c'est quelque chose. Voilà, j'étais extrêmement indiscrète comme... Comme par la suite, d'ailleurs. Hein.
Et vos jeux d'enfance, c'était quoi?
Alors, nos jeux, on avait plusieurs. Alors, on avait, par exemple, on pouvait se cacher la nuit. On jouait beaucoup la nuit, parce qu'il y avait le mystère de la nuit, on se cachait un peu partout. Bon. Et on jouait un jeu que nous avions inventé qui s'appelait Cazolet Tapeta. Alors, ils avaient fini par faire un puits. Les gens avaient fait... ils s'étaient cotisés, ils avaient fait un puits. Et quand on sortait cette eau du puits, ils tombaient toujours un peu autour, parce qu'on les versait dans les seaux. Il faut dire qu'on n'avait pas d'électricité non plus. Hein. On avait un carburo, comme les lampes des mineurs.
Les mineurs, ouais.
Oui.
Acétylène.
L'heure à laquelle ma mère lisait des romans pour les voisines. Parce qu'elle savait lire, elle ne savait pas trop écrire, elle savait pas, mais elle savait lire. Et les soirs d'hiver, les voisines venaient, on prenait des briques, on s'asseyait par terre, et ma mère lisait. Et donc, pour dire que... Ce jeu était extraordinaire parce qu'on attrapait la glaise, on faisait des casseroles, des petites casseroles, et on crachait dedans et on la jetait contre le mur. Si le crachat, parce qu'il y avait un monsieur qui faisait sa maison à côté du puits, si le crachat traversait, on avait un point. Mais si la cassolette s'écrasait platement contre le mur, on n'avait rien. Et on avait d'autres jeux très intéressants, c'est-à-dire qu'on faisait pipi côte à côte sur le terrain qui n'était pas très, très plat. Si les pipis se rejoignaient, ben on était sœurs pour la journée, donc on ne se fâchait pas, on ne se battait pas. Par contre, s'il divergeait, ben on se faisait la gueule jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain pipi. Quoi. Il y avait quand même des phases, des phases stratégiques à respecter.
Et Noël, tu te rappelles de Noël? Qu'est-ce que ça avait un sens à cette époque-là?
Ça avait un sens religieux parce qu'on chantait des villancicos, hein, dont on se rappelle encore. Mm-hmm. Je les chante avec ma frère et ma sœur quand on se voit. C'était très, très religieux, très... Mais nous, on ne faisait pas de crèche chez moi, je ne suis jamais beaucoup occupée. Chez nous, ça n'avait pas le sens religieux.
Des cadeaux?
Hein? Des cadeaux, non, non, non. Ma cousine Carmeta avait une relation très proche avec un chirurgien de Barcelone. Ce chirurgien donnait des cadeaux pour sa petite et elle nous envoyait parfois... avec ma mère, des petites choses. Mais on n'avait pas. Alors, les rois, après les Noël, on n'avait rien. C'était pour les rois. Les rois mages.
Début janvier,
le 6 janvier, on avait un petit truc. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu de cadeaux. Mais j'en avais plein, parce que comment on faisait les dépotoirs? On avait des poupées boiteuses, des poupons borgnes, on avait une tas de choses. Et j'avais appris à faire des poupées chiffons. Avec les morceaux qu'on ramassait, comme ça. Donc, je fabriquais les jouets, avec les boîtes de sardines, quand il y en avait, etc. On faisait un petit trou, une ficelle, et on faisait les gitans, on jouait aux gitans. Et on allait à Igualada. Alors j'ai appris une fois adulte et prof d'espagnol que Igualada c'est un lieu, c'est une ville, pas loin de Sabadell. Mais moi j'ai toujours cru que c'était l'infini Igualada, parce que les gitans, de temps en temps, ils disparaissaient, ils allaient à Igualada. Bon, ils se vendent pour Igualada, ils partent vers Igualada. Et alors maintenant, quand je dis ben, j'en ai marre de hein, ce train-train, je vais partir à Igualada. C'est la signification, je vais aller n'importe où, quoi. Je vais prendre la voiture, la petite valise, et à Igualada. D'ailleurs, prochainement, ma nièce et moi partirons à Igualada, vers la Dordogne, quoi. Là, c'est comme aller.
Quel est pour toi le meilleur souvenir de
cette, année, ouais. Ça a été le meilleur, je ne sais pas, mais un des bons, c'est quand ma mère avait un petit peu d'argent, qu'on avait bien ramassé beaucoup de choses dans la décharge, j'avais droit à un mois d'école, à une semaine d'école, parce que c'était à la semaine. El señor Juan était un monsieur qui n'avait pas de diplôme, mais qui était, semble-t-il, quelqu'un de généreux et de cultivé. Et le señor Juan me faisait parfois m'accepter deux semaines sans payer, parce qu'il trouvait que j'étais très dégourdie. Et il disait à ma mère, il passait le dimanche à ramasser l'argent. Et il disait, surtout, ne dites pas aux voisines que vous ne payez pas, parce que sinon, tout le monde va vouloir la même chose. Alors l'école était extraordinaire, il y avait une table et un banc sur des briques. De temps en temps, ça tombait, c'était la grosse rigolade. Et j'avais eu un cahier et un crayon. Comme je perdais la gomme, avec mon doigt, je faisais de magnifiques trous dans le cahier parce qu'il fallait effacer les bêtises. Et je commençais à savoir lire, pas vraiment, mais à reconnaître les lettres. Et quand on est arrivé en France, il fallait lire Perpignan, puisque là, il y avait un arrêt important. Je n'ai pas fini de lire le mot Perpignan, je devais être à Pi quand le train a démarré. Donc je n'ai jamais su où on était. Et c'est après que ma mère me dit « C'est lié à Perpignan, non, nena ?» C'est lié à Perpignan, mais je n'étais pas arrivée au bout. D'autant plus que le CNE, ça ne me disait pas grand-chose, sans doute. Hein. Donc voilà, j'avais commencé. Et mon rêve, c'était d'avoir un stylo. Et quand mon père disait « Quand on gagnera plus d'argent, je t'achèterai un stylo. » Et on avait trouvé dans la décharge un livre, genre livre de choses, où c'était leçon de choses, qu'on appelait en France, où il y avait une mine avec une extraction du charbon et tout. Et mon père me disait, tu vois, moi j'ai travaillé comme ça, mais les chariots n'étaient pas les mêmes. Enfin, vous m'expliquez sur... Alors quand je suis arrivée en France, c'est qu'on m'a donné gratuitement, à l'école primaire, des cahiers, des crayons. Ça a été la passion. D'ailleurs, je n'ai jamais quitté l'école parce que ça a nourri ma passion. La seule frustration profonde fut la pâte à modeler, parce que moi, j'y avais pas droit en France, parce qu'il fallait que j'apprenne, donc j'avais 9 ans déjà. Il fallait vite que j'apprenne à lire et à écrire, donc la maîtresse, elle a récré, et même pas d'anglais, donc je faisais des petits bonshommes, moi, elle m'apprenait à lire, donc je disais, mais j'aurais jamais de pâte à modeler, donc j'en ai jamais eu. Et quand Frédéric a eu 1 an et demi, il a eu plein de pâte à modeler avec lequel il ne faisait rien, par le coller par terre. Et enfin, j'ai satisfait tous mes désirs.
Le syndrome de la pâte à modeler. Donc, toi, tu es l'exemple vivant de ce que peut apporter l'école laïque, l'école
publique. Ah oui, absolument. Ça a été,
publique,
je suis un défenseur acharné de l'école laïque. Et ma mère disait, quand elle avait des coups de cafard, qu'elle pleurait parfois parce qu'elle avait tout quitté, sa famille, c'était une immigrée à l'état pur, ne connaissant ni la langue, ni les personnes, ni le travail, ni même pas se débrouiller pour aller acheter un litre de lait. Elle disait « Todo esto lo hago por mis hijos, je le fais pour mes enfants, parce qu'au moins ici, ils seront quelqu'un. En Espagne, ils n'auraient servi qu'à balayer les maisons, à barrer la casa de los ricos, balayer les maisons des riches. » Et donc, ça a été, mes parents n'ont jamais eu d'argent, n'ont jamais eu de maison. Mais même sans les bourses, sans rien, ils nous ont toujours, toujours consacré tout ce qu'ils ont eu pour que nous fassions tous les trois des études.
Fils de bourgeois ou fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César, fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mains à l'art, les mains soupirs, fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire sous voûte d'or, sous toit de chaume. Tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une fleur qui tremble, un oiseau mort qui leur ressemble. Fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de ton fils, mon fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Fils de l'amour, fils d'amourette, tous les enfants sont des poètes. Ils sont bergers, ils sont rois mages, ils ont des nuages pour mieux voler. Fils de ton fils ou fils d'étranger, tous les enfants sont des sorciers. Ce n'est qu'après, longtemps après, mes fils de bourgeois ou fils d'apôtres, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs. Fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont comme le tien.
Des bidonvilles de Barcelone à ceux de Trujillo au Pérou, avec
Isabelle Barnés Carrillo
sur Radio Centrafrique.
De ce bidonville de Barcelone, tu es arrivée en France et ces années en France t'ont amené à être après professeur d'espagnol en lycée, voilà, en collège, à l'école normale, oui, à l'UFM, professeur agrégé. Est-ce que tu peux nous parler?
Oui, un alors petit peu de cette époque-là, le parcours professionnel, écoute.
Professionnel, mais aussi social, enfin, je veux dire, l'ambiance dans la famille, est-ce que ça...
Je suis donc, j'ai été donc, pour ainsi dire, scolarisée au sens propre à 9 ans. On m'a mis au CP.
Donc avant l'âge de 9 ans,
papa... Je ne savais pas lire, quoi.
Je ne savais pas lire, non, après
je connaissais quelques lettres, je connaissais les lettres, mais je n'étais pas... Alors donc, on nous a fait... Je me rappelle avoir appris à lire sur un petit livre qui s'appelait Zizi et Pampan, ce qui ferait beaucoup rire maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Zizi et Pampan, Zizi est une poupée... Pampan est un pantin. Ça s'appelait le coffre jouet. Et voilà, alors on m'a fait un peu sauter les étapes. Dès que je suis un peu lire, j'ai passé un cours au-dessus. Le problème, c'est que quand on m'a fait passer au CE1 ou CE2, je ne sais plus quel était à l'époque, je savais très bien lire et je ne comprenais pas ce que je disais. Je ne comprenais rien du tout. C'est-à-dire que, par exemple, les soustractions furent ma bête noire, parce que au T2, ça ne voulait rien dire, moi, au T2. Si on m'a dit on enlève, donc je voudrais dire aux instituteurs qu'ils parlent simple, que ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Hein? Au T2, et des choses comme ça, j'ai appris des résumés de géographie par cœur, sans rien comprendre, ce qui veut dire que j'avais de la mémoire. Bon, alors, passé cette phase, eh bien, mon père, chaque fois, qui a été bûcheron, donc, chaque fois qu'il avait un peu plus d'argent ailleurs, ben, on déménageait, donc j'ai fait 5 écoles primaires successives. Et j'ai passé le certificat d'études puisque mon institutrice, qui est toujours de ce monde que nous voyons de temps en temps, avait dit que la sixième était trop juste, que j'allais souffrir, donc m'a mis en fin d'études. J'ai passé mon certificat d'études, presque brillamment, puisque j'ai eu le second prix, et on m'a mis en cinquième en collège. Après, ça a continué, donc j'étais dans une section scientifique, à une section scientifique jusqu'au bac, où j'ai pu passer un bac philo, ce qui m'a quand même, j'ai découvert un autre monde. Bon, après, j'avais un peu le choix. C'était ou anglais moderne, ou espagnol, ou éducation physique. Mais comme je ne voyais les piscines qu'en photo, il y avait une épreuve de natation. Donc bon, je ne me suis pas présentée. Il y avait une épreuve obligatoire de natation pour rentrer au CREPS. Voilà. Donc, français moderne, je ne suis pas latiniste. Donc, mon cousin, qui a été prof à la fac pendant longtemps, m'a dit, tu sais, peut-être qu'il y a plus de postes après en espagnol en ce moment qu'en français moderne. Ce sont les circonstances du moment, donc j'ai fait espagnol.
J'ai et jamais tu as regretté. Appris l'espagnol ?
J'ai appris l'espagnol parce que nous avions un espagnol peu académique à la maison. Hein. Donc il a fallu que je redécouvre un niveau d'espagnol. Et alors maintenant, chaque fois que je peux en faire usage, je me régale pour montrer que je suis savante. Hein. Mais à l'époque, chez moi, ma mère, quand j'arrivais, con muchas eses, si muchas, on a prononcé tout, elle disait « Madre mía !» Madre mía, quién diría que has salido tú del mocho de la escoba? On dirait pas que tu es sorti de comment on dit le mocho? Dans la partie des poils, quoi, du balai. Ouais, ouais. On dirait pas, mais qu'est-ce que c'est que ces finesses? Hein? Par contre, on nous a toujours parlé espagnol à la maison et on parle tous les trois espagnol. Mon frère avait 18 mois lorsqu'il est arrivé, il parle aussi couramment. On a toujours respecté notre langue et notre culture. Hein? Il ne fallait pas parler finodo parce que. Voilà. Alors le CAPES, ça a été un soulagement parce que. On a pu un peu plus d'argent. Là. Disons que mes parents n'avaient plus à me payer des études. Il y avait les deux autres, quoi, encore.
Donc tu t'es retrouvé à apprendre des jeunes français ce qu'était que la culture espagnole.
Pas oui, que la langue, oui, mais oui. Mais il faut dire que notre culture, étant donné le milieu dans lequel je suis né, dans lequel on a vécu, même si j'ai eu des parents intelligents, culturellement, c'était totalement, totalement pauvre. Hein, ma mère avait une vision politique, elle lisait le journal, tout ça. Mais on n'avait pas un livre à la maison, on n'avait rien. Et donc notre maîtresse, ma maîtresse, va ouvrir la bibliothèque, la sienne, la mienne. Et après, j'avais même le curé de Ligos, le village le plus proche de l'école primaire, qui me prêtait tous les bouquins doucoureux de Gatou, enfin, tout extraordinaire de... Toutes les bonnes pensées humaines, chastes, j'ai tout appris grâce au curé de Ligos, qui était un bien brave homme, et qui m'avait ouvert sa bibliothèque.
Et donc tu as découvert aussi la littérature hispanique, oui. à cet âge-là ?
Mais je l'ai découvert en France, quoi, hein, puisqu'on n'avait pas d'ouverture là-bas. Pas de... Bon, d'abord j'étais petite, et puis ensuite, il y a le fait que, quand j'ai su lire, ça m'a ouvert un monde, mais un monde qu'on ne soupçonne pas. Avoir accès à la littérature espagnole, à la littérature française, aux traductions, mais ça... Moi, je crois que nos enfants, ils ne mesurent plus parce que ça leur est donné. Parce que ce qui est donné et ce qui est gagné, c'est pas tout à fait le même résultat. Et je crois qu'on ne mesure plus combien de savoir lire est une chose extraordinaire. C'est des mondes en parallèle qu'on découvre, des portes qu'on ouvre, des portes. Alors, voilà, je continue à ouvrir des portes, hein, mais... Ça a été, sous ça, fabuleux de savoir lire. De temps en temps, c'est comme avoir une machine à la vaisselle. Je me dis, oh, et j'ai ça, moi. Je n'en reviens pas. Alors, j'ai été prof en collège, j'étais envoyée dans la Sarthe, où je suis restée 3 ans. Et ensuite, mon mari ayant du travail par ici, je me suis jamais habituée à la Sarthe, parce que c'est un pays triste, triste. Donc, je voulais revenir dans le sud, tout poste dans le sud-ouest, dès que j'ai eu le poste à Aulnay-le-Château. Où je suis restée, où je me suis beaucoup plus, je suis restée 14 ans. Ensuite, j'ai eu un complément de service, parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants, donc pas assez d'élèves, avec Marcillac, après avec Monteil, et puis on m'a mutée à Foch.
Tout ça à Rodez, donc.
Tout ça à Rodez, après je n'ai plus bouché, hein. je me plais trop, comme on dit, je m'en plais alors, de cette vie-ci, de l'Aveyron. Je m'en plais de l'Aveyron. Et donc après, on m'a demandé si je voulais intervenir à l'UFM, donc avec, disons... une décharge horaire. Hein. puis aussi
pour former donc les jeunes enseignants d'espagnol, voilà, au niveau pédagogique.
Voilà, au niveau pédagogique, un petit peu didactique à notre niveau, hein, sans être trop ambitieux. Donc j'ai fait ça 7-8 ans, je ne sais plus. Et puis, on a fait aussi, je dis on parce qu'on était 3 ou 4 collègues, à aller à travailler à l'actuel Champollion, qui était à la fac a ouvert, voilà, en ELEA, langue étrangère appliquée. Voilà, en gros, le parcours.
Et ça t'arrive des fois, Isabelle, tu es en train de faire le cours à la fac et de te repenser, de te revoir dans ce bidonville, ce barrio de Sabadell.
Non.
De dire, mais quel chemin de parcouru.
Non, pas du tout, je ne me dis pas ça, parce que ça s'est fait sur des années, donc il n'y a pas de choc, il n'y a jamais eu de choc, dire, je suis là et j'étais là-bas. Et puis, vraiment, c'est... Je me suis installée dans la fonction et dans le parcours et non, je trouve que ce que m'a apporté ce bidonville et tout ça, c'est plus l'expérience humaine, c'est le contact de tout ce monde et puis t'apprendre une espèce de modestie, hein, de dire que chacun fait que certains camino andar et on avance et on apprend en mesure, on apprend tous les jours, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est vrai. Et donc tu avances, mais ce qui est derrière toi, ben, tu l'as en toi, tu le véhicules. Hein. On a le sac à dos bien chargé, voilà. Et il y en a d'autres qui ont des sacs à dos tout plats.
Comment tu transmets ce que tu as dans le sac à dos, jeune génération, le fait tout à l'heure tu avais... C'était bien résumé en disant
c'est
ce qu'on apprend, c'est pas pareil que ce qu'on gagne. Enfin,
ah oui, mais c'est deux choses différentes. Ouais. Je pense que lorsque tu te bats pour obtenir quelque chose, cette chose-là, elle t'appartient, tu l'as faite.
Tu t'es battu. Voilà. Et devant toi, tu as des jeunes qui ne se battent pas forcément.
Alors, moi, ce que je dis toujours, en particulier aux petits immigrés que j'ai eu l'occasion de fréquenter, que je continue à fréquenter, là-bas en Pérou, tout ça, je me dis... Il est normal qu'on aide, il est normal qu'on vienne au secours, il est normal qu'on pousse un petit peu. Mais quand l'élan est donné, il faut pédaler. On ne peut pas attendre que la personne vienne derrière toi pour te pousser une nouvelle fois. Et ce que je reproche beaucoup aux jeunes, c'est une espèce de manque d'ambition au sens noble. C'est-à-dire, il faut, ne serait-ce que pour soi, il faut qu'on avance, on ne peut pas rester à dire « vous arrivez là pour me pousser un petit peu », ça m'énerve. Je supporte. Et je pense qu'il y a quand même une forme de... Je ne veux pas paraître trop le péniste en disant ça, mais je pense qu'il y a une forme d'assistanat exagéré pour certains. C'est trop général ce que je dis, mais pour certains, le petit coup de pied au cul qui donne l'élan, je pense qu'il serait nécessaire. Moi, je disais aux petites, j'avais une petite turque en classe qui se bagarrait et tout, mais il faut encourager, puis tu vas le dire à ton frère, à ta soeur que tu as réussi, que tu as eu 12 ans de maths, il faut le dire aux autres. Et c'est parfois. Les grands enfants dans les familles, les plus grands, qui, plus que les parents, qui sont sinon blasés, du moins, ils se sont tassés dans leur existence, les gens d'un certain âge, sauf quelques exceptions. Mais les grands enfants, même dans les familles nombreuses, c'est à eux de tirer les autres et de dire, mais tu vois, pas de se substituer, c'est pas ce que je veux dire. Mais d'être exemplaire dans la nouvelle vie, voilà. Exemplaire au sens que... Il faut que... Voyez ce que je fais, et bien faites. N'attendez pas que moi je vous donne quelque chose. On donne, mais il faut donner intelligemment. Si on peut.
Maintenant que tu es à la retraite, Isabelle, tu es toujours dans le fer, et tu vas nous en parler, tu fais au Pérou.
Voilà, alors quand j'ai pris la retraite, je me suis sentie dépossédée d'une fonction sociale. J'ai écrit à toutes les alliances françaises sur la suggestion de Flore Alvas qui m'a dit, mais tu devrais, un jour qu'on a mangé chez la maman de Suzy, il m'a dit, mais tu devrais voir Iglesias Alias. J'ai écrit partout et on m'a répondu du Chili, de Viña del Mar, qu'ils étaient très contents que j'aille bosser, mais une année entière, une année, et je ne me sentais pas capable de m'expatrier, entre guillemets, une nouvelle fois pour une vie entière. Donc je m'expatrie actuellement avec mesure et avec sagesse. Donc j'ai dit que non, que c'était trop long, un an, bénévole, bien entendu. Donc le Pérou m'a répondu, à Trujillo, où il y avait un jeune Français qui venait de s'installer à l'Alliance Française, extrêmement chaleureux, extrêmement gentil, qui m'a dit, mais oui, mais venez, on ne vous donne rien, vous vous payez tout, mais vous aurez notre, disons, notre respaldo, comme on dit, notre soutien en cas de problème, en cas, et vous pourrez faire ici la formation des profs de français qui sont un peu juste à l'écrit. À l'oral, ils se débrouillent bien, mais ils avaient un examen du niveau C2 en français et ils ne savent pas rédiger. Et c'est vrai qu'il y a une grande carence en ce qui concerne l'écrit, mais c'est général. Hein. Les gens ont une aisance verbale qui ne passe pas du tout à l'écrit. Quoi. Donc, j'y suis allée deux mois, puis je suis revenue et depuis donc 8 ans maintenant, j'y reviens régulièrement. Au bout de 4 ans, comme nous étions brillants, les étudiants, enfin les profs et moi, tout le monde était formé. Donc, un collègue m'a dit, tu sais, dans le bidonville, là, à Salaverde, il y a du travail, tu viendrais.
Ça se trouve à côté de Trujillo.
Oui, c'est une banlieue. Trujillo est à 650 km au nord de Lima.
Au nord de Lima.
Oui, plus vers l'équateur. Hein. Donc, Trujillo, si tu es en bord de mer, vers la mer, j'ai la mer, et tout ce qui est l'art de cercle derrière, 3 quarts pratiquement, c'est du bidonville. La ville a 1 million d'habitants, mais les gens de la Sierra, ils appellent ça des asentamientos, les gens de la Sierra sont venus par milliers s'installer là en pensant trouver du travail, puis la séduction du progrès et tout, parce que Trujillo, quand on est dans la ville, du point de vue nouvelle technologie et tout ça, ils sont en avance par rapport à l'Europe pratiquement. Tout le monde parle avec son iPhone, son iPad, tout ça dans la rue, et très fort pour qu'on sache qu'ils en ont quand même. Hein, donc... mais après, 10 km vers l'extérieur, dans le rayon, eh bien, c'est ce que les photos que j'ai ramenées et tout ça, c'est des petits gosses qui sont dans le dos de leur maman. Hein. Les mamans vont vendre 4 bricoles et survivre, plus qu'ils ne vivent. Donc, petit à petit, bon, c'est le détail un petit peu long, mais on s'est... Je me suis dit qu'il fallait peut-être faire, que je pouvais éventuellement faire quelque chose pour un peu aider les mères. C'est limité, on a 9 petits, on va en avoir 12 ou 13 à la rentrée prochaine, enfin en janvier. Mais j'ai eu l'impression d'être utile.
Les aider comment? En créant quoi, par exemple?
C'est une petite escuelita qu'ils appellent, c'est-à-dire on accueille les bébés de 1 à 3 ans. Parce qu'après, à 3 ans, ils sont pris par le système scolaire existant, demi-journée, les gamins n'ont que demi-journée de classe. Alors, cette crèche, ben, c'est un peu dans l'esprit, c'est tel qu'elle est réalisée actuellement, c'est pour soulager les mamans qui peuvent travailler, parce que dans ce coin-là où est la Escuelita, il y a des usines de fabrication de chaussures. Alors les mères, ce que je les ai vues faire, elles prennent le travail dans un sac, les chaussures et les semelles, et les amènent chez elles, et elles cousent, elles ont toutes des morceaux de cuir autour des doigts, enfin elles cousent, et bien les tout petits se débrouillent comme ils peuvent. Alors dans les familles de 6, les grands s'occupent des petits, enfin voilà. Donc là on les amène le matin vers 8 heures, et les dames, on a une institutrice spécialisée, petite enfance comme ça là, et une aide maternelle, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Et donc, on les accueille tous les matins jusqu'à vers une heure et demie. Là non plus, on n'est pas très exact pour les récupérer.
Quand tu dis « on », ça veut dire donc qu'il y a plusieurs adultes qui gravitent autour de ton
action. Il y en a là-bas. On en a deux personnes qui sont employées, plus Hilda, une jeune femme qui fait le lien avec nous, qui s'occupe de recruter les familles parce qu'elle est travailleuse sociale là-bas, qui connaît les familles et qui a un peu choisi en fonction du devenir de ses enfants quand des parents sont un peu responsables, quand on sent qu'ils vont soutenir ça, que ce ne sera pas n'importe quoi, que ce n'est pas juste pour les garder, quoi, qui ont un petit peu d'ambition pour leurs gosses et tout ça. Donc nous en avons, je dis, 9. Et bon, ils ont ces deux maîtresses qui travaillent tous les jours, à qui nous avons assuré la sécurité sociale de là-bas, la retraite et tout ça, pour que une fois fini leur mission, soit avec nous, soit individuellement, ils arrivent à avoir quelque chose, parce que c'est un drame, les femmes n'ont rien, et les personnes âgées n'ont rien. Donc je crois que s'il y a notre bagarre, ce serait pour faire des types de maisons de retraite, parce qu'il n'y a rien pour accueillir ces vieux, rien. Et donc 80 ans, ils sont dans les rues avec un petit panier de bonbons pour qu'on leur donne une pièce. En fait. C'est assez pathétique. Hein.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Dissonance avec
Isabelle Barnes Carrillo
sur Radio Centrafrique.
Donc, quand je suis revenue la troisième année, eh ben, j'avais ramassé des sous ici pour faire une ludothèque. Et puis, quand j'arrive, on m'a dit, mais non, c'est fini notre programme, nous, on ne peut plus ni héberger une école. Non. Alors, je suis allée voir le curé, le padre et tout ça. Là, là. Eux, ils ont de la place. Par contre, ils ne voulaient pas prendre en charge ni les assurances, ni le personnel, ni... Et puis moi, je voulais pas qu'ils soient logés dans une sacristie, ça me hérissait, donc j'ai dit non, on va laisser tomber la sacristie. Donc, on s'est adressé à d'autres paroissiens, et qui nous, c'est Skip, qui est, semble-t-il, non confessionnel, et qui nous loue, qui nous prête, puisqu'on donne un petit quelque chose, une pièce où on a installé notre propre petite ONG. Voilà, et rentré en France, et ben on a fait légaliser cette ONG.
Qui s'appelle
Pour les bébés Alto Salaverri. Le problème, c'est que Alto Salaverri, c'est là, on n'a pas pu le faire. Mais c'était trop compliqué de repasser à la préfecture, de refaire un dossier et tout, pour nommer autrement une chose qui est la même, en fait. Donc, on a gardé ce nom, en sachant que le lieu où on est s'appelle Rio Seco, rivière sèche. C'est du désert.
Cette ONG qui agit concrètement dans ce barrio du Pérou est basé ici en Aveyron.
Oui, chez moi, parce qu'on n'a pas
chez
de...
Chez toi, ici à Seignac, nous sommes à Seignac. Oui. Et comment est-ce qu'on peut... comment est-ce que tu fais pour avoir des fonds pour aider... Bon,
alors, les fonds, du point de vue... État, on n'a rien. On n'a rien parce que j'ai déposé mon dossier à la préfecture. On nous a dit qu'il n'y avait pas assez d'ancienneté en tant que 1901, que donc on ne pouvait pas avoir quoi que ce soit. Que pour avoir des grèvements, je ne sais pas comment on appelle ça, des remises d'impôts sur des dons importants, Il fallait donc avoir 3 ans d'existence et un budget conséquent pour montrer la solidité de la chose. Donc la commune de Calmont nous donne quand même 180 euros. Et tout le reste, ce sont les braves gens qui autour de nous nous donnent ce qu'ils peuvent. Les adhésions, on a quand même 300 adhérents. Pour dire que le peuple français est quand même... On en dit tous, toutes les horreurs qu'on veut, mais ils sont généreux. Parce que c'est impensable. Quand je dis ça au Pérou, ils n'en venaient pas. Ils se disent, mais c'est pas possible. Et donc, après, on fait un tas de choses. Hein. Alors, moi, j'ai repris mes cours d'espagnol aux adultes, à Bourran, je fais le vendredi soir, des élèves qui vont de 47 à 76 ans. Très appliqués et tout. Hein. Après, la mairie de Calmont m'embauche de nouveau pour les périscolaires, que je commencerai en janvier. Après, nous avons la paella dansante à Valadi en février, fin février.
C'est la date ?
La date du 27 février, à Valadi, au manoir. Au manoir. Et puis, je fais des vides-greniers. Nous nous partageons les vides-greniers à droite à gauche entre les adhérents pour ramasser un petit peu d'argent. Et là, on en est au paquet de Noël. Donc, je fais le fil rouge, mais beaucoup de dames et même un monsieur, notre trésorier, viennent donner un coup de main par demi-journée.
Et, voilà. Et si des auditeurs veulent te verser de l'argent ou verser de l'argent à cette association,
est-ce qu'il y a des idées bizarres?
Est-ce qu'il y a une adresse?
Oui, alors l'association. Alors, je peux vous donner le. D'abord, on a un site internet. Hein, le site internet, c'est http://, c'est ça? Mmh. Et puis, ça s'appelle, d'un seul tenant et sans aucun accent, bbduperou.org. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y a l'adresse mail la mienne, et moi je fais passer les bulletins d'adhésion, et je transmets les fonds.
Voilà. On mettra tout ça sur la page du site internet de la radio. De radio
voilà. Donc on peut me joindre à paix, on peut mettre aussi mon téléphone si besoin. Ça ne me dérange pas.
Moi, je voudrais te demander, parce que depuis que je t'entends là et tout ça, j'aimerais savoir si tu fais une différence, s'il y en a une, moi il me semble que oui, à travers ce que tu as dit, entre la solidarité et la charité.
Oh, certes.
Tu refuses Jésus-Christ, les salles de la sacristie, ton passé.
Bon, alors voilà, moi, en tant que de grande athée, grâce à Dieu, n'est-ce pas? Je ne peux jamais me situer, je pense que ça vient de l'enfance, parce que j'ai quelques anecdotes de catéchisme extraordinaires.
On peut en avoir une?
La voici. Nous étions tenus d'aller au catéchisme, dans notre bidonville. On faisait des groupes de catéchisme. Et moi, j'étais tombée avec Dora, qui habitait dans une baraque, un truc troglodyte, une maison troglodyte, enfin, maison étonne. Una cueva. Et la Dora, elle venait nous faire le catéchisme. Et elle disait, cuando Dios, par exemple, entonces, Jesús subió al cielo. Et moi, mais comment?
Jésus monté au ciel.
Jésus monté au ciel. Mais comment? Como subió al cielo? En aquel tiempo no había aviones. Como subió al cielo? Et elle me disait, tu eres muy preguntona, cállate. Et tu es trop curieuse, tais-toi. Alors j'ai dit à ma mère, moi j'y vais plus, parce que Dora ne sait pas répondre à mes questions, elle ne sait rien, alors je ne veux plus y aller. Donc ma mère m'a dit, mais il faut que tu y ailles, tu sais, parce que tout le monde y va. Bon, alors pendant que d'autres allaient au catéchisme, nous, 3 ou 4, on était là, on allait jouer à Castole Tapeta, qui était notre jeu préféré. Et puis, au mois de juin, il y a eu distribution de prix suivant l'assiduité au catéchisme. Donc... On est allé avec tous les autres, puisque Dame Analgo, et ce sont les dames patronesses qui distribuaient ça, elles avaient une liste avec les noms, et elles disaient « Margarita Gutiérrez, un abrigo, un manteau ». Évidemment qu'au mois de juin, ça tombait bien. Hein. Et la gamine est repartie avec son manteau, toute fière, comme ça. C'est pas moi, Susana Alvarez, unas botas. Ça se trouve, elle avait 7-8 ans et on lui avait donné une 44, mais elle partait contente. Et puis là, Loli et moi et ma soeur, rien. Alors on est reparti à la maison, on pleurait, enfin, on pleurait pas trop, mais j'en avais la gorge serrée d'avoir rien. Et ma mère disait, c'est bien fait, vous avez qu'à y aller, pourquoi vous n'êtes pas allé au catéchisme? Mais là, Loli était une enfant gâtée, unique, gâtée et tout. avec un pépé qui avait des sous. Alors, la mère nous a attrapé une par chemin, on est allé revoir les patronesses, elle a tapé à la porte, elles entrouvrent, elles étaient en train de boire quelque chose du chocolat, ou je sais pas, avec des petits gâteaux. Alors, pero mire comment viene la niña, mire qu'elle va dar un tolofón, elle va avoir un malaise, mais regardez, vous allez leur donner quelque chose. Alors, elles ont fini par nous donner à chacune un paquet, avec du papier fin, de lait en poudre, mais qui avait fait la guerre, la post-guerre, et qui était dur comme les clous du Christ, un truc dur, dur. Alors, on est arrivé à la maison, et ma mère, eh bien, c'était bien la peine de faire tout ce foin pour ce qu'on vous a donné, avec des mots plus crus que ça. Qu'est-ce qu'on a à la merde, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bon, bref, elle nous l'a laissé sur la table. Alors, on a attrapé une petite cuillère, ma soeur, on a raclé. On a mangé la moitié du paquet sans se rendre compte que ça faisait peut-être 10 litres de lait, je ne sais pas. On a été malade, à vomir. Et ma mère, c'est bien fait pour vous. De toute façon, c'est des garces. Elles ne peuvent vous donner que des cochonneries. Donc, je veux dire que moi, la charité, j'ai donné. Hein.
Voilà.
On m'a donné. Donc, je n'ai pas de charité. Alors maintenant, il y a le concept d'altruisme. Et puis le concept aussi qu'on dit, bon, mais l'État devrait s'en occuper. C'est vrai. Toutefois, c'est une façon aussi de se décharger de toute responsabilité collective en disant, l'État n'a qu'à. Mais bien sûr, l'État n'a qu'à. Mais en attendant, si on voit quelqu'un se noyer, tu dis pas, ben, toi, on va t'apprendre à nager. On lui envoie une bouée. Et nous, on est au stade de la bouée. Si on peut leur apprendre à nager, ça sera aussi bien. Mais...
Et ton but, c'est que ça soit pérenne. C'est qu'après, une fois, tu
peux les attacher. Oui, mais voilà, on a autour de 10 000 euros par an à envoyer. 10 000 euros... C'est énorme, hein, ça fait presque 900 euros par mois. Ce qui fait que si on s'endort ou si on nous laisse tomber, eh ben, ça fait moins. Là, on a signé en novembre un contrat pour un an pour les esthites. Après, bon, on espère pouvoir... pour le moment, on a pratiquement une trésorerie pour couvrir notre engagement, mais pas au-delà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire.
Du bidonville de Barcelone au bidonville de Trujillo, c'est un magnifique parcours.
Bon, mais oui, mais je ne sais pas ce que si cette phrase est de Jean Ferrat. Je parle, mais je n'en suis pas sûr, mais qui disait qu'on ne guérit pas de son enfance. Voilà, et moi, maintenant, j'ai eu ma rechute.
Merci, muchas gracias, Isabelle.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents, l'été et les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous. J'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance.
Vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur l'association créée par Isabelle Lemoyle en allant sur l'internet et en tapant http://bbduperou.org sans accent, sans espace. Vous pouvez écrire aussi à l'association pour les bébés, 14 rue des Acacias, Seignac, 12450 Calmont, et vous retrouverez sur la page internet de Radio Sainte-Afrique consacrée à Dissonance d'autres informations comme un numéro de téléphone, mail, etc.
Nul ne guérit de son enfance, de son enfance.
Pour habillage sonore de l'émission Dissonance, il y a eu, et vous avez entendu, la chanson Le Métèque de Moustaki qui a été interprétée ici en espagnol par Yeye de Cadif. Il y a eu aussi Fils de et La Quête de Jacques Brel. Ensuite, Nul de guéri de son enfance de Jean Ferrat et des morceaux musicaux interprétés par le groupe péruvien Alma del Sur.
Qui disparut avec la guerre renaît.
Cette émission sera rediffusée sur les ondes de Radio Sainte-Afrique le lundi 28 décembre à 20h et le mercredi 30 décembre à 11h. Et vous pouvez bien sûr la podcaster sur Internet. en allant sur le site de la radio, radiosaintafrique.com.
Celui qui vient à disparaître, pourquoi l'a-t-on quitté des yeux? On fait un signe à la fenêtre, sans savoir que c'est un adieu. Chacun de nous a son histoire.
Au mois prochain,
salut et fraternité.
À la chute, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. Il le guérit de son enfance, de son enfance. Il le guérit de son enfance, de son enfance. Belle, cruelle et tendre enfance, aujourd'hui, c'est à tes genoux que j'en retrouve l'innocence au fil du temps qui se dénoue. Ouvre tes bras, ouvre ton âme, que j'en savoure en toi le goût. Mon amour frère, mon amour femme, le bonheur d'être et le temps doux. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance.